les Français, à force d'immigration incontrôlée.
Claude Guéant en chevalier blanc de la laïcité.
Le gouvernement déploie du coup 16 000 hommes sur le terrain dès ce
soir. Qu'est-ce que la faillite de la Grèce?
Choisir de vivre à crédit, il faut qu'il paye.
Revenons à la raison, sans passion, et voyons ce que notre dauphin libéré maçonne depuis son officine du côté d'Antigone. Vous avez compris, nous sommes en compagnie de Philippe Sorel, le valsien de la Socialie Montpelliéraine. Avant de le proboscoper comme il se doit, parlons un petit moment de vin, afin de ne pas déroger à la rubrique intitulée « In vino veritas ». Quel est donc ce flacon que tu nous as apporté qui est censé flatter nos sens ?
Oh, c'est très classique, c'est du Pic Saint-Loup tout simplement. Mais si j'ai choisi le Pic Saint-Loup, c'est pas un hasard. C'est parce que ça entre dans la conception que j'ai du grand territoire de la ville. Comment voulez-vous que Montpellier se sépare de son jardin ? Comment voulez-vous que Montpellier n'ait pas de discours sur son littoral ? Comment voulez-vous que Montpellier s'en tienne uniquement à ses murs, à ses boulevards périphériques ? Et ignore complètement l'ensemble du centre héros de cette garrigue exceptionnelle qui nous entoure.
Ah, donc,
c'est peut-être ça le projet, Montpellier grand territoire.
Donc on va t'appeler dorénavant monsieur le métropolitain. Quoi.
Dans cette conception-là, qui est une conception qu'on peut concevoir comme une métropole, il y a d'autres ingrédients très importants qui ne font pas partie de la métropole. Je n'en parle pas en termes de territoire administratif, j'en parle en termes de territoire culturel. En termes de territoire de cohérence, lorsque une ville comme Moggio possède 80% de ses des chefs de famille qui travaillent à Montpellier, lorsqu'une ville comme Lodève propose à 60% de ses chefs de famille de travailler dans le secteur de Montpellier ou dans l'agglomération, comment voulez-vous mettre des limites administratives cohérentes ? Non, ce sont plutôt des limites, je dirais, d'influence. Il est deux territoires. Le territoire intramuros de la ville, celui qui est administratif. Il est aujourd'hui un autre territoire administratif qui est celui des 31 communes de l'agglomération. Moi, je plaide pour un territoire autre, un peu différent, un peu plus élargi, qui ne correspond pas forcément à un territoire administratif, mais qui intègre à l'intérieur des partenariats autour de sujets, de thématiques particulières, qui sont donnant-donnant.
Bon, bah ça, on ne va pas en reparler. Parce que...
Mais c'est, ah, voilà, c'est le bassin d'emploi, finalement. C'est-à-dire ce qui correspond à une réalité économique.
Absolument.
Ça s'appelle pratiquement le département de l'Hérault.
Oui, et puis c'est la ville et la montagne à la fois. Donc la ville, la montagne et la mer. Hein, on va donc mettre ces trois...
Bon, on va avoir l'occasion de parler de... Bien sûr.
Pour la cohérence du propos, c'est important. Montpellier n'a pas d'industrie, de grandes industries. Elle a une industrie qu'il faut qu'elle stimule, c'est l'industrie du tourisme. Comment voulez-vous qu'une ville-centre... capitale régionale ne s'intéresse pas à cet arrière-pays, à ce littoral qui sont extrêmement porteurs en termes de tourisme. Lorsque Georges Frêche m'a interpellé pour donner mon avis sur les régionales et sur le programme des régionales, j'ai proposé à la commission Constantin la mission Racine numéro 2.
En 2010.
Et la mission Racine numéro 2, c'est quoi ? C'est la stimulation de tous les effets possibles sur le tourisme autour de la capitale régionale. Et notamment... en reprenant un petit peu les éléments qui avaient été développés de façon très étatique. Mais ceux-là, au moins, ont été réalisés par la mission Racine 1, que ce soit les missions sportives de base nautique, que ce soit les missions sportives de tennis autour du golf, sur l'aménagement du littoral et des stations balnéaires qui vont avec. Voilà un petit peu comment je conçois cette façon de voir la ville, parce qu'aujourd'hui, une grande ville doit réagir à deux échelles. L'échelle... de la vie quotidienne, et puis l'échelle de l'international, des grands équipements. Ce sont les termes de définition même de ce qu'on appelle la ville durable.
Bon, alors, on va pouvoir passer, j'allais dire, au cœur et au vif du sujet. On va commencer par une petite provoscopie. Marianne, c'est autre chose qu'une adresse ?
Ah oui, oui, bien sûr. Marianne, pour moi, c'est la République, évidemment. Évidemment, c'est la République.
Ce n'est pas qu'un port, quoi.
Ce n'est pas qu'un port, mais c'est la République. Mais pour moi, cette Marianne, lorsque je pense à Marianne, je pense à tous les bustes de Marianne qui ont fait la République et qui sont évocateurs de toutes les époques. La Marianne des années 1870, que l'on peut voir encore sur la place de Marseillan n'est pas la même. Elle a le bonnet phrygien, elle a quelques symboles autour d'elle. C'est pas non plus le visage de Carla Bruni. voilà, donc la Marianne correspond, puis vous savez que c'est une figure, une iconographie exceptionnelle de tous les philatélistes. Entre c'est... Cérès et Marianne.
Ouais, absolument. mais ça,
d'autant
ça...
qu'il paraît que la première Marianne, selon Georges Frêche, venait depuis le Reims.
Oui.
Qui était le village.
Ouais. Mais ce qui est assez, assez paradoxal, c'est qu'il a fallu attendre 1944 pour voter une loi sur l'autorisation pour les femmes de voter, alors que le symbole de la République a toujours été Marianne. C'est intéressant.
Bon, on va pas faire des Zemmour, mais.
Non, mais c'est vrai.
Bon, alors je vous propose qu'on sorte les balais et qu'on dépoussière un petit peu le passé montpelliérain. Il paraît, on a entendu dire, il faudrait tourner la page. Mais quelle page? Celle de Georges Frêche? Ou celle d'Hélène Mandroux? Alors, on va en discuter avec notre bébé fraîchien, et on va d'abord revenir sur 35 ans d'histoire montpelliéraine. Frêche, c'est clair, il a rajeuni la vieille bourgeoise endormie. Ne serait-ce qu'au niveau, par exemple, du dynamisme montpelliérain, dynamisme démographique, pardon, qui a été aidé par une urbanisation maîtrisée. Alors, tu as été adjoint à l'urbanisme. Alors, est-ce que vraiment on peut parler d'une urbanisation maîtrisée liée justement à ce que Frêche a pu faire depuis, pendant 35 ans ?
Bien sûr, une urbanisation maîtrisée, de façon technique, cela signifie que l'ensemble des terrains et du plan local d'urbanisme est maîtrisé. Ça veut dire que tout est prévu, tout est, que ce soit le prix des terrains qui est relativement régulé, que ce soit également l'emplacement des grands axes, ou le développement urbain à venir, tout cela est intégré dans les documents d'urbanisme qui font la base même de la politique municipale et qu'on appelle aujourd'hui le plan local d'urbanisme et précédemment le plan d'occupation des sols. Mais je reviens à la première idée de ton propos, Yves, tourner la page. Mais dans la vie, il faut sans arrêt tourner la page. Ça ne veut pas dire qu'il faille la déchirer. Ça ne veut pas dire qu'il faille la piétiner, ça ne veut pas dire qu'il faille s'y asseoir dessus. Pas du tout. Ça veut dire que, comme l'est aimé à le rappeler Georges Frêche lui-même, il faut que tout change pour que rien ne change. Et donc, c'est le devoir impérieux des politiques que d'adapter la politique municipale au monde qui l'entoure.
Et bien, quand même, le tel développement démographique a eu pour effet qu'aujourd'hui, tu vas me dire si je me trompe, mais je ne dois pas me tromper de beaucoup, entre 15 et 20% seulement des habitants de Montpellier sont des Montpelliérains natifs de Montpellier. Donc on a un cosmopolitisme absolument extraordinaire à Montpellier qui fait que le Montpelliérain, le vrai, le pur, le dur, c'est un espèce d'indigène colonisé.
Parce que comme le Parisien un peu. Hein,
voilà.
Même chose.
Ce n'est pas nouveau dans l'histoire de la ville. La ville a toujours fonctionné de cette façon. Je n'en veux pour preuve que le témoignage du grand chroniqueur médiéval qui s'appelait Benjamin de Tulède et qui disait « À Montpellier, on y parle toutes les langues de la Méditerranée ». Donc ce n'est pas la première fois que la ville a cette conformation. Ça s'est toujours fait de cette façon-là dans l'histoire. Et puis, je pense qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur qu'un nouveau converti. Je n'en veux pour preuve que les groupes folkloriques qui peuvent paraître pour certains désuets, qui peuvent paraître un peu ringards pour certains, dans les villages de l'Hérault. 80% d'entre eux sont présidés par des gens qui ne sont pas héroltés. Et ils trouvent une joie particulière à s'intégrer de cette façon et à défendre les traditions du lieu qu'eux ont choisi. Moi, j'y suis pour rien si je suis né à Montpellier.
Est-ce que c'est vraiment ça, Montpellier-la-Surdouée ? C'est ce pôle d'excellence, alors effectivement, avec Frêche, une ville de festival, une ville de médiathèque, de maison pour tous, etc. Est-ce que ça ne va pas faire de Montpellier la soudouée que d'en revenir quelques assos plus ou moins ringardes?
C'est amusant d'ailleurs de dire ça, parce que je ferai remarquer que Georges Frêche n'était pas montpelliérain.
Ah non, pas du tout, non.
Bien sûr. Montpellier la surdouée, c'est la volonté de créer in fine une grande métropole au bord de la Méditerranée, et de lui donner, entre Milan et Barcelone, sa place de capitale, de grande ville, à l'échelon international. Et je crois que le challenge reste entier pour Montpellier aujourd'hui. Ce n'est pas parce que il y a eu des mesures prises, des grandes décisions de prise, comme la politique culturelle, comme l'urbanisme, comme le tramway, autour des transports, autour de l'aménagement, qu'il ne faille pas remettre en question les règles qui ont dicté ces prises de décision, parce que le monde change, et que les règles applicables en 77 ou en 80 ne peuvent plus être les remèdes de la ville d'aujourd'hui. Parce qu'il y a une grande crise internationale, parce que les gens ont changé de mode de vie, parce que...
Ah, nous fais pas ton socialiste, là, avec la crise.
Non, non, mais je crois que Philippe Sorel a raison.
Je dis la vérité que j'entends tous les jours. Ouais, ouais. Hein. Moi, je sors pas de l'ENA. Je suis fils d'instituteur.
Il y a un marasme économique. Il y a un marasme économique qui date pas de 2008 à Montpellier. Le marasme économique à Montpellier, j'allais dire, il date de toujours. En tout cas, depuis très, très, très longtemps. Et là... Quelque part, justement, quand tu as tourné la page, est-ce que ce ne serait pas là, en termes économiques, c'est-à-dire d'emploi, et donc par son corollaire de chômage, est-ce que ce ne serait pas là l'erreur, le fiasco, le ratage de Georges Frêche ?
Non, je ne parlerai pas de
ratage. Ah bah on a le record de France du chômage aujourd'hui.
Oui, mais vous savez très bien que cela vient aussi du solde migratoire qui est très important dans la ville. Mais je n'élude pas le problème en répondant à cela. Georges Frêche a basé la création d'emplois sur trois piliers métropolitains. Premièrement, la matière grise avait les 70 000 étudiants. Secondo...
C'est pour ça qu'il a fait venir des gens qui n'étaient pas de Montpellier, parce qu'il n'y avait pas assez de matière.
Ah oui. Il a fallu apporter.
Mais il y en a qui sont partis ailleurs parce qu'ils étaient très bons aussi.
Non, mais là, il ne faut pas dire il est allé chercher. C'est les gens qui
sont venus.
Ils sont venus pourquoi ? Parce qu'ils pensaient qu'effectivement, à Montpellier, il y avait une dynamique qui pouvait être intéressante pour eux.
Parce qu'on leur a fait une offre qui semblait alléchante. C'est pour ça qu'ils sont venus.
La deuxième chose, c'est le bâtiment et les travaux publics. Parce que lorsqu'on délivre 1200, 1300 permis de construire par an, on crée 3000 emplois directs et peut-être deux fois plus d'indirects. Et la troisième chose, c'est le tertiaire, avec l'implantation des industries tertiaires. Mais tout cela supplée le manque de grandes industries que la ville n'a jamais eu, parce qu'elle a eu un développement de capital administratif plus que de capital ouvrière ou de grande ville ouvrière. Et de cette force, et il le savait parfaitement, parce que lorsqu'il crée le projet Montpellier et la mer, c'est pas pour dire on va à la mer, c'est facile d'aller à la mer, Montpellier est à côté de la mer. C'est parce qu'il veut ajouter le visage portuaire et méditerranéen à Montpellier qui va lui donner son impact touristique.
International.
International.
Alors justement, Montpellier... Intramuros, effectivement, ne peut pas avoir d'avenir véritablement. L'avenir, au-delà même de l'agglo des 31 communes, on doit envisager un avenir qui va de la mer à la montagne et de prendre en compte véritablement le tourisme. Mais bien, le problème, tout simplement, ne vient pas de la DATAR, des décisions prise par la DATAR, fin des années 90, notamment par celui qui a été préfet, le préfet Idrac, qui avait remis un rapport à la DATAR ces années-là, qui prévoyait grosso modo, pour aller vite, de supprimer Montpellier au profit de Marseille et de Toulouse, du moins en termes administratifs, des grandes administrations, de déconcentration, et des choses comme ça. Est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce que c'est pas foutu ? Est-ce que Montpellier est pas mort, quoi, tout simplement ?
Rien n'est jamais foutu.
Oh là là, il va vite, là.
Non, moi, si j'avais ces idées-là dans la tête, je m'arrêterais demain matin de faire de la politique municipale. Non, il faut toujours nourrir l'espoir et il faut toujours se battre pour améliorer le sort de nos concitoyens. Et je crois qu'aujourd'hui, il est d'intérêt impérieux pour la ville de Montpellier que de se réaffirmer comme une grande capitale au bord de la Méditerranée.
Oui, mais comment faire concrètement ?
Ben, concrètement, il faut
vis-à-vis commencer... Vis-à-vis de la DATAR, par exemple, vis-à-vis de l'État.
Pour moi, et dans mon projet, que je ne dévoilerai pas aujourd'hui, mais je vais en donner le grand axe lorsque je parle de Montpellier Territoire, il faut réparer certaines fractures de l'histoire, déjà. C'est la première fois que je dis ça à la...
C'est-à-dire concrètement
Il y a des guerres politiques qui ont créé des césures, des fossés, des ornières, des grandes falaises, entre Montpellier et tous les territoires qui l'entourent. Moi, je pense qu'il faut commencer par ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas les grands jumelages internationaux que nous avons, Mais je crois qu'il est important que, que la ville-centre reprenne les relations familières qu'elle a depuis le Moyen-Âge et le jour de sa création avec les villes de l'Hérault.
Ouais, par exemple, excusez-moi d'interrompre, mais on est en train de déguster quand même un excellent Pic Saint-Loup, il faut quand même le dire d'abord aux auditeurs. Et le Pic Saint-Loup, ben, c'était la commune de M. Sommade, me semble-t-il. Et donc, ça fait partie de ces fractures dont vous parlez.
Absolument. Voilà. Absolument. Vous savez, moi, Gérard Sommade m'a vu naître. Je suis parent avec quelques maires de la Val de Montferrand, du secteur du canton d'Ematel, qui ont fait la guerre à Georges Frêche. Georges Frêche, je le savais, on n'est pas responsable de sa parenté et de son ascendance. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, cette guerre, ce n'est pas la mienne.
Oui, puis elle peut peut-être...
Cette guerre, ce n'est pas la mienne.
Puis elle est peut-être finie.
Voilà. Et je crois que nous, Montpellier, nous avons un devoir de protection immédiate des grands territoires environnementaux sauvages qui bordent notre centre, le nord de notre commune, c'est-à-dire toute cette garrigue du Val de Montferrand, du canton d'Ematel,
donc, par le biais de la métropolisation, de la métropole, aura une maîtrise au niveau du sol, au niveau
Je ne le vois pas en termes administratifs. Je le vois en termes de partenariat efficient. Parce que je ne suis pas pour gommer la place du département dans cette affaire. Même si on peut considérer que les métropoles portent un coup décisif à la survie des départements, moi je considère que vu la situation politique du département de l'Hérault, eh bien il convient d'avoir des partenariats sensés, intelligents, bien compris entre les uns et les autres. Et ce petit travail-là, qui n'est pas un travail, c'est pas aller sur la Lune ou sur Mars de faire ça, mais il faut bien que quelqu'un le fasse un jour. Lorsque le tramway et la ligne 3 arrivent à Pérol et qu'après, il faut 2 heures minimum pour aller à la mer.
C'est absurde.
Ça fait 1 heure pour aller à la mer. Mmh. Et lorsque le petit train de Palavas, en 1970, mettait avec sa machine à vapeur 2 heures pour aller à Palavas, est-ce qu'on a régressé ou est-ce qu'on a donné aux Montpellierains un service plus efficace?
Et pareil,
moi, je considère que nous avons régressé. Et tout ça, ça peut peut-être se rediscuter.
Oui, oui, il faut ouvrir les esprits, donc. Et puis, soyons aussi clairs, il y a eu des morts depuis ces exploits-là. Et c'est peut-être aussi que ces morts qui sont... Donc, on va garder leur mémoire, mais on va peut-être pouvoir faire un peu du passé table rase, un peu.
C'est pour ça que je parle de tourner la page. Mais oui, j'en parle parce qu'on est tous différents. Moi, ce qui est intéressant dans la politique, c'est que, étant ce que je suis... J'essaie d'apporter mon patrimoine culturel et ma connaissance des hommes et des lieux au service du collectif. C'est ça, pour moi, l'action politique. Avec ma façon de voir les choses, avec ce que je peux apporter, donner. C'est pas... Georges Frêche nous disait toujours, la politique, c'est servir. C'est pas se servir. Et c'est dans cet esprit-là, moi, que je fais de la politique.
Si je comprends bien, en fait, avec ce que tu viens de dire, le véritable problème, ça ne va pas être de tourner la page Georges Frêche. Moi, je pense personnellement que la mort de Georges Frêche a fait que ce n'est pas une page qui s'est tournée, c'est un livre qui s'est fermé. Et que le problème, c'est d'écrire la première ligne du second livre, d'un autre livre. Mais je me demande, alors, avec ce que tu viens de dire sur les relations avec l'environnement, etc., si en fait, ce n'est pas plutôt la page Sommade qu'il faudrait tourner. C'est-à-dire un réflexe ou une justification d'une position simplement liée à une opposition à la grande ville. C'est une vraie question. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un certain nombre de maires ou de conseillers généraux dont la justification de la position politique en termes de développement, etc., n'est faite que par opposition à la grande ville ou à l'agglo de Montpellier.
Je pense que cette idée...
Donc ta tâche va être difficile.
Non, hein. Mais je pense que ces idées-là sont maintenant révolues. J'écoutais et je lisais hier l'interview de Alain Guilbeault, maire de Murle, sur Midi Libre, où il disait qu'il fallait que la ville de Murle, le village de Murle, se prépare à son entrée dans une future ère de métropolisation.
Oui, c'était le cas de Vallon, il y a de ça un an, ou deux ou trois ans, sur Casse-Vieille.
Encore une fois, ça dépend comment les choses se font. Si cela se fait que d'un côté, c'est pas acceptable pour les villages. C'est pas acceptable pour la ville non plus si ça se fait de l'autre côté. Ça, moi, je ne le vois pas comme ça. Avant de passer à cette histoire de métropole, il convient de faire un vrai travail politique. Un vrai travail politique. Lorsque nous faisons cet été l'exposition Albert Dubout, de façon simultanée, ici, à l'espace Dominique Bagouet, sur la Comédie, et en même temps, au musée Albert Dubout à Palavas, eh bien, nous faisons, quelque part, un accord de partenariat autour d'une thématique choisie. Lorsque nous faisons, de façon simultanée, la grande exposition du peintre contemporain Manuel Ocampo, au Carré Sainte-Anne et au Miam de Sète, en même temps, nous faisons ce travail politique. Discret, mais propre. Mais propre. Et où tout le monde est gagnant. C'est comme ça que je vois les choses. Je ne les vois pas dans la guerre. Et je ne les vois pas dans la malversation.
De toute façon, pour développer l'ensemble au niveau touristique, on a vraiment besoin de ça. Qu'est-ce que je recherche au niveau international ? Les gens, c'est pas Montpellier. C'est Montpellier plus, bien entendu, le Pic Saint-Loup dont on parlait. C'est aussi la mer. Et donc, c'est cette interaction qui est nécessaire et qui a longtemps été difficile à cause des antagonismes, on pourrait dire, ou de certaines personnes qui étaient peut-être... Qui freinaient, qui avaient peur, les uns ayant peur des autres.
Oui, puis il y a des vérités historiques qui ont été mises sous le boisseau pour convenir à des réalités ou des idéaux politiques. Par exemple, avec Moggio. L'exemple le plus typique, c'est Moggio. Lorsque j'étais invité il y a 6 mois ou 1 an par le maire de Moggio, lors d'une manifestation en tant que représentant du Conseil général, je disais dans la mairie de Moggio où il me proposait de prendre la parole que Moggio, c'est la mère de Montpellier. Ben, il faut avoir le courage de le dire. C'est rien, mais il faut que les Melgoriens sachent qu'ils sont plus anciens que la ville de Montpellier, que la ville de Montpellier découle de Moggio. Et que ce sont des petits signes historiques, mais qui ont une très grande importance sur le plan symbolique. Parce que c'est pas faire le Gandhi, faire le malin que de dire ça.
Mais on a failli le devenir Dandy. Espagnol.
Ouais. Mais
les Mélégoriens le sont.
Mais c'est dire, la réalité des choses. Hein? Lorsque on s'aperçoit que, comme je le disais tout à l'heure, les relations avec le littoral sont brutalement rompues à Pérol sur cette ligne de tram, mais ça fait rire. Le monde entier.
Ah oui, ça fait rire les touristes quand on les amène là-bas. Ils nous disent, mais pourquoi là, ça s'arrête là ?
Alors, et tout ça, c'est de l'argent public. Et quand on est politique, on est comptable de l'argent public. On doit réagir comme si on le gérait pour nous-mêmes, comme si on avait une responsabilité impérieuse. Parce que l'argent public, c'est pas de l'argent, c'est l'impôt des autres.
Voilà. Il nous reste 3 petites minutes là, pour finir cette première partie de notre discussion. J'aimerais bien qu'on discute, mais très rapidement malheureusement, de deux choses. La première, de l'insécurité, au sens clair du terme, qui règne sur Montpellier. Je ne parle pas tant en journée, mais le soir, la nuit, où là, la question n'est vraiment pas réglée. Il semblerait qu'il y ait même des quartiers de Montpellier, exemple, Figuerolles, qui deviennent des quartiers de non-droit. C'est-à-dire où on ne sait même plus ce qui s'y passe. Et puis, la deuxième chose, et parfois tu réponds où tu veux, à propos scolaire, où décentralisation venue, c'est la mairie qui gère l'école élémentaire, c'est normal. Il semblerait, en tout cas Montpellier 2020, l'association semble vouloir le démontrer, qu'on soit dans un état de délabrement physique des locaux absolument considérable sur la ville de Montpellier.
Alors, un point sur la sécurité. Sur la sécurité, les ZSP, les zones de sécurité prioritaires, ont été accordées par le ministère de l'Intérieur, seront mises en place très prochainement. Personnellement, je n'étais pas favorable à stigmatiser des quartiers comme elles l'ont été dans la demande auprès du ministère de l'Intérieur. Je considère que l'insécurité se déploie partout sur une ville et pas simplement sur des quartiers montrés du doigt.
Le petit bar, disons-le.
Oui, le petit bar, les Cévennes.
Mais notamment, Figuerolles, pourquoi est-ce que Figuerolles la presse ne fait jamais état de questions de faits divers. Or, il se passe des choses, pas plus probablement viroles qu'ailleurs, mais c'est le silence complet au niveau médiatique. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là-dessus ?
Ça, c'est des questions qu'il faut poser aux journalistes d'investigation que sont les journalistes.
En l'occurrence, au niveau journaliste, il semblerait qu'ils aient reçu des ordres, des conseils...
Il n'y a pas d'ordre de journaliste donné par les hommes politiques.
Faisant que ce serait malvenu de parler de ce quartier en termes de faits divers.
Ça, je ne suis pas au courant du tout.
Non.
Je n'ai pas eu ces échos.
Tu liras attentivement Midi Libre, par exemple, où il y a une page et demie, deux pages de faits divers tous les jours. Jamais ça ne parle de Figueroles. Ça va parler de tous les quartiers possibles et imaginables. Jamais de Figueroles. C'est quand même assez bizarre.
C'est parce qu'il ne se passe rien, Figueroles.
Et l'école, en deux mots, sur le délabrement des locaux.
Sur l'école, en deux mots, il y a deux choses importantes. D'abord, et c'est ce qui retient en premier lieu mon attention, c'est, je dirais, la difficulté des enfants sur les données essentielles que doit fournir l'école, lire et écrire.
Non, mais je parle des locaux, moi.
Non, mais je vais y venir, parce que c'est une des propositions, un des constats qui est fait par le petit bouquin Sursaut de Montpellier 2020. Et la deuxième, et donc là, il y a des mesures à prendre, et les municipalités ont la capacité de prendre des mesures sur ce plan-là. La deuxième chose, c'est sur les locaux. Oui, il y a beaucoup de travaux à faire dans les écoles de Montpellier, et ça implique des choix budgétaires.
Oui, parce qu'il serait question de 30 millions d'euros, quand même, c'est pas négligeable.
Dans le programme que je proposerai, cela sera intégré.
Bon. Alors, on va clore cette petite chose, puisque le programme qu'il proposera, bah, on est dans le futur, mais j'ai remarqué qu'il y a une grande différence dans la langue française entre le futur et le conditionnel. C'est pas, il n'y a pas de conditionnel, c'est un futur absolu.
Want to sign check, c'est okay.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.